Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois de février 2008, selon Pierre Ouellette.
Le gel du temps. Histoire de février en l'an 2008 de notre ère. Le mois de février, un petit mois auquel il manque quelque chose, un jour ou deux, peut-être trois, un mois mutilé, handicapé. Deux de ses membres ont peut-être gelé, se sont gangrenés qu'il a fallu couper. Un mois raccourci, non pas tant décapité et têté, puisque c'est sur sa fin, non pas à ses débuts, qu'on sent qu'il lui manque ce quelque chose. L'appendice caudal tranché net, dès le 28, sinon le 29, ou Dieu sait quand, avant même qu'on en ait atteint le bout. Une fin avant la fin, comme si le temps chutait, l'année flanchait, perdait pied dès ses premiers pas. Un accident chronique qui affecte la durée, dont on ne se relèvera pas, sinon boiteux, clochant, clopinant, traînant derrière une jambe de bois, une patte folle, un pied beau. J'aimerais parler de ce boitement, de cette claudication généralisée qui rythme notre monde, de son infirmité, de notre siècle unijambiste, cul-de-jatte, qui nous oblige à prendre une canne ou à ramper pour se rendre péniblement jusqu'au prochain mois, à la prochaine année. Il n'y a pas de rampe d'accès, pas de pont ni de passerelle, pas même d'échelle ou d'escalier. Il faut bondir, sauter, sans le ressort de nos deux jambes, avec la seule force de nos pensées, celle de nos rêves et de nos cauchemars, de nos regrets, de nos remords. Une conscience sautillante avec ses hauts et ses bas. Un esprit défenestré qui se jette dans le monde par la fenêtre de nos deux yeux écarquillés, qui s'élance vers le ciel dans un dernier souffle qui passe entre nos lèvres entrebâillées. On a les jambes coupées comme le souffle, comme la vue, comme la marche de l'histoire, entravée par l'énorme précipice que ses pas et ses faux pas ne cessent de creuser dans le temps qui passe, dans son avenir comme dans son passé. L'histoire n'a pas de fin, mais il y a longtemps qu'elle ne marche plus sur ses deux pieds, dont notre siècle l'a amputée, comme on a fait de la queue toute gangrenée du mois frigorifié de février. Nous sommes entrés dans l'ère des glaciations, qui frappent non pas les corps mais les pensées, non tant les membres que l'âme. La planète se réchauffe, dit-on, mais les cœurs gèlent, l'esprit frissonne. On me demande de parler de l'actualité, mais je ne vois rien d'actuel nulle part, que de l'avenir, que du passé, jamais de présence ici ou là qui nous confirme notre existence, qui nous conforte dans le fait qu'on est, qu'on vit. De la présence, un présent, ça ne veut pas dire du plein, du réel, du solide, non, mais un don de temps, le don d'un seul instant qui nous prolonge au-delà de nous. Car nous ne cessons de le demander, à qui, à quoi, donnez-nous du temps, donnez-nous quelques minutes, une heure, un jour, un an. Combien me donnez-vous de temps, docteur? De combien de mois encore pouvez-vous me faire cadeau? À quel présent puis-je donc m'attendre? Une dernière nuit? Toute une année? Un siècle et des poussières? L'homme n'a plus d'âge. L'âge d'homme s'est brusquement achevé. Comme ce petit mois de février, ce temps glacial qu'on appelle l'histoire, l'hiver de l'histoire, dont on ne voit plus le printemps. Les premiers temps ne sont plus, ne reviendront jamais. Le cycle des saisons n'enchaîne que saison morte sur saison morte, dernier temps sur dernier temps, février sur février. Commenter le temps, au jour le jour ou d'heure en heure, c'est faire entendre cette longue rumeur d'un être à bout de souffle qui persiste à parler du monde parce qu'il lui manque terriblement. L'actualité du monde nous pousse à dire ou à hurler, râler et murmurer qu'il nous fait défaut, qu'il nous fait faux bon, qu'il se refuse, ne se donne plus comme un présent dont nous sommes privés dorénavant, frustrés à vie du don de la présence. Je lis le journal chaque jour comme si je n'étais pas là, parti en voyage pour une éternité, et refais ainsi des nouvelles du monde où je ne suis pas, dans celui où je le fuis. Je prends de loin des nouvelles de mon prochain, non pas pour m'en rapprocher, du moins en pensée, mais pour savoir de quelle absence je viens, de quel vide je suis sorti, de quelle extrême vanité je me suis enfui, de sorte que le manque de temps et la vacance du monde où je suis désormais plongé ne m'apparaissent pas trop étranges, pas trop inquiétants. J'apprivoise le vide où je m'en vais dans cette immense vacuité du monde d'où je viens. L'annulation de tout dans la nullité des petits riens qui la préparent. La vanité dans la futilité. L'inquiétant néant dans cette inanité de chaque instant. Vivre, vivoter. La seule nouvelle qu'on puisse apprendre est qu'à chaque jour, la vanité de l'homme se renouvelle. Tous les déchets se recyclent. Les miettes en rien, les restes en ruine, l'insignifiant dans son propre néant. On ne lit pas le journal tous les matins pour refaire le plein, farcir sa vie d'un peu de sens, d'une vague idée, de quelques faits, mais pour se vider de la nuit, de la veille, du jour d'avant, pour faire place nette. Les nouvelles ? De la vie dure, ce qu'on enlève d'organes et de viscères aux bêtes que l'on nettoie, ce qu'on retire d'abats, les bas morceaux, la rate, le riz, le foie, l'étripage de la journée, de la semaine, du mois. Et l'on apprend, dans ce voyage mnésique où l'on racle chaque fait jusqu'à l'oubli, la grande viduité où chaque nouveau vide s'engouffre. J'écoute le journal télévisé pour voir comment l'histoire s'absente de jour en jour et nous laisse là, sur la rive du petit écran, au bord de l'image, hors champ, abandonnés à nous-mêmes, dans la non-histoire de nos vies, où la grande histoire s'accroche les pieds, puis retombe et s'évanouit. Les grands récits finissent en petites chansons, Henri Tournelle, Henri Godon, les petits airs qu'on siffle avant de s'endormir. On reste sur le bord du monde chaque fois. Mais le monde déborde jusque dans nos rêves, dans nos cauchemars, nos insomnies. Il nous entraîne dans son propre vide, dans son ressac, l'irrésistible reflux vers l'absence pure, la grande vacance où tout se mêle en une même insignifiance, un seul non-sens, le tout ou rien indifférencié. Un tsunami mais renversé, qui aspire tous les rivages de la terre, ses côtes, ses plages, vers les grands fonds où l'origine du monde et les fins dernières ne cessent de s'étreindre, nouant leur néant dans l'embrassement perpétuel du vide par un vide plus grand, à quoi nous prépare clandestinement l'histoire humaine, cette catastrophe, ce cataclysme. Un réchauffement de la terre, un refroidissement de l'histoire, voilà les conditions pour que la tiédeur de l'homme prenne feu et se transforme en glace dans le même moment. Une flamme gelée pour l'éternité, un glacier qui flambe, un temps qui bout dans de la glace pilée, un geyser fou dans de la neige folle, des Sahara dans l'Ungava, des février en août, des hivers d'hommes dans des juillets de boue, des tonnes de lave sur des kilos de givre, une couche de verglas sur un grand lit de braise. L'homme, un animal à sang tiède que l'histoire glace et la terre brûle. Il lit chaque jour la météo de son âme dans les journaux à sensation, où on lui annonce les pires calamités. Le cours de son sang monte à la bourse des valeurs les plus sûres, mais le cours de sa vie baisse sur le marché des biens les plus précieux. Il faut se mettre à l'abri. Une grande récession de sang frais et de matière grise frappera bientôt l'humanité. Une grande dépression nous guette, d'où viendront les pires tempêtes de l'histoire. Les grêles d'injures et d'inanités nous tomberont dessus à la mesure des tonnes de larmes et de sang que nous aurons versées. On n'a plus besoin, comme Arnaud, Lancelot, Pascal, de se réfugier à Port-Royal pour échapper au temps qui passe sur soi et repasse sans arrêt, nous presse et nous écrase. Il suffit de se tenir au cœur de l'histoire, dans l'œil du cyclone, où la vanité centrale du temps nous garde à jamais dans un état d'apesanteur ou de lévitation. Vous êtes dans le cœur d'une église en ruine, dont les chants soufflent sur les derniers murs qui tiennent debout dans le monde, et vous sentez que ce sera là votre dernier abri, votre ultime demeure, la grande spirale des vanités qui tourne dans le cœur de l'être pour le visser à son propre néant, son unique base, son sol, sa fondation. « Tu es de l'air, et sur cette terre je bâtirai mon histoire, » dit l'homme à l'homme. En plein cœur de février, quand la poudrerie sévit, la rafale déferle, les grandes vagues de froid du temps qui passe emportent tout dans leur néant, jusque les banquises et les neiges éternelles, les pôles et leurs glaciers. Se mettre en rade du temps, en marge du monde. Ce n'est pas, bien sûr, refuser quelque présence que ce soit, mais précéder le monde, le temps, dans l'absence qu'ils deviennent, au fur et à mesure que nous les vivons, au fur et à mesure que nous en mourons. Je précède de quelques pas, dans l'éloignement où je me tiens de toute actualité, le vide où chaque fait tombe de jour en jour, comme un caillou dans l'eau, un coup d'épée dans l'air, un coup de marteau dans le vent. Je devance l'absence où il nous laisse en tombant. Soyons précis, tranchants. Chaque chose qui arrive en ce bas monde creuse un immense trou où le présent s'engouffre, s'absente. Le 11 septembre a creusé un trou si grand dans le réel et dans le temps qu'ils y ont été brusquement entraînés, aspirés tout entiers. Ce ne sont pas des morts qu'on y a enterrés, mais leurs survivants, qui ont suivi le temps, suivi le monde dans ce grand vide qui s'est creusé, cette longue absence qui s'est créée, cette vacance, cette viduité, où l'on dirait qu'on vit désormais ce qu'on appelle l'actualité, dont la fausse présence avait déjà été fortement ébranlée par la chute du mur de Berlin, 15 ans plus tôt, par les fausses communes que les génocides du XXe siècle auront laissées en abondance dans notre histoire, comme si l'on pouvait accumuler du vide, thésauriser l'absence, collectionner des trous. Je ne lis pas l'actualité en elle-même et pour elle-même, à partir du seul présent qu'elle aura miné, mais depuis cette absence qu'elle ne cesse d'approfondir en y accumulant le vide vivant, le vide vécu au jour le jour par notre humanité, celui où nous nous précipitons avec elle dans l'inadmissible, dans l'insensé. Mais il y a vide et vide. Il y a celui vertigineux des no man's land que nous explorons dans les recoins les plus reculés de notre univers, à quoi l'art et la littérature nous aident, creusant le lit de l'impossible brut, dans le grand dehors comme en chacun. Et il y a celui, Bushland, Putinland, Harperland, Sarkoland, où la viduité banalisée de notre monde se répand partout comme de la poudre. Elle couvre les rides de notre histoire prématurément vieillie. La nullité comme fond de teint du temps, écran solaire, écran lunaire, gris beige, grèche claire, contre les assauts de la nuit et de la lumière. Une couche de gras qui immunise contre la vie, une tranche de vide posée sur les regards pour qu'ils voient le monde à travers leur incurable cataracte, celle que le spectacle des choses provoque quand elles cessent de jouer leur rôle pour endosser celui de ce faux néant qu'on appelle l'insignifiant. J'ouvre la télé, j'ouvre le journal. Nicolas et Cécilia, Nicolas et Carla, Nicolas et les médias, Nicolas, etc. Je ne parle pas du tsar, je ne parle pas d'une star, mais d'un président de la République. Homme public, fille publique, même combat. Racolé, appâté, aguiché, agacé. Titiller le client sur le trottoir du petit écran, des magazines, des tabloïdes, de la rumeur généralisée qui court les rues, qui fait la rue, désormais pavé d'images et de slogans qui nous en cachent les trous, les failles et les nids de poules où l'on ne cesse d'être piégé, de perdre pied, de perdre la tête, puis le sens même de notre humanité. On dit « people »,« press people »,« monde people ». Ils n'ont rien de peuple pourtant. Populaire peut-être, populiste sans doute, mais jamais peuple comme on parlait jadis de la cause du peuple, en ces temps lointains du joli mois de mai que les people comme Nicolas le tsar Kozy veulent effacer de l'histoire, justement, éradiquer de toutes les mémoires, devenu bientôt ce blanc monotone où l'on projette non-stop, en trois dimensions et en haute définition, les aventures grandeur nature des people les plus en vue du temps, qui élèvent au rang d'icônes et de symboles, d'idoles et de fétiches, le grand insignifiant, l'insipide, l'inconsistant, l'insigne médiocrité, tous synonymes de notre médiocratie. Les médias ne médiatisent qu'eux-mêmes. Interface entre interfaces, mise en abîme de l'abîme, régression à l'infini, image d'image ad nauseam. Comme les animateurs de talk show n'invitent plus que des animateurs de talk show, qui s'interviewent entre eux, miroir devant le miroir, qui ne réfléchissent que des narcisses, ou ne rebondissent que des échos, d'égo à égo. Jamais le monde comme tel. Opacité du vide, que des écrans partout, comme un grand champ de nullité où rien ne renvoie à rien sinon à soi, dans une autoréférence généralisée où le dehors, l'impossible, le jeu comme l'autre n'existe plus, à jamais fondu dans le grand ça indifférencié de l'écran total, du bouclier antipossible du téléréel et de l'hyperbanal. Le mois de février dont j'aimerais parler n'existe pas. D'ailleurs, il est inadmissible, comme dit Denis Roche de la poésie. Le seul qui compte, si j'en crois les traces qu'il laisse à la une ou sur l'écran de l'actualité, c'est celui des primaires américaines, des frasques sarkoziennes, de la participation probable des Canadiens de Montréal au final de la Coupe Stanley. Comment intégrer, dans cette insignifiante mensualité des événements qui rythment la vie publique, comme les épisodes d'un interminable téléroman, la promenade que j'ai faite ce matin même avec mon chien, ou la lecture que j'ai faite hier d'un roman de Yannick Enel, d'où j'ai tiré cette citation, dans le but express de vous la transmettre, pour qu'elle fasse tache dans votre journée, dans votre mois de février. Je suis dans la solitude. J'y vis. Je suis dedans. C'est une solitude qui absorbe chaque instant. Une solitude retentissante, mais à retardement. Une solitude de derniers étages, une solitude d'éclats comprimés. Une solitude qui respire en permanence la violation, le surchauffement nerveux, la froideur. Une solitude peuplée de gestes microscopiques et qui les promène lorsqu'elle sort avec eux, au jour. Une solitude qui ne desserre pas le poing fermé sur sa propre clé, qui est un mystère à ses propres yeux, qui s'apparente aux chambres vides du barillet dans la roulette russe. Voilà, la solitude est notre seule actualité. Elle est la virtualité de l'histoire, la possibilité du temps par-delà le temps. Je m'en remets à elle. Elle perce tous les écrans. Une solitude en acte qui prend en écharpe la massification sans reste de notre humanité, ce gros bloc d'ombre que l'uniformité grise du monde ne cesse d'alourdir et de confondre. Février, le mois des solitudes affranchies de leur isolement. Februa en latin veut dire expiation, ablution, purification. La solitude en est le lieu, l'autel, le temple. Ces quelques notes prises ici et là au cours de ce dernier mois ont pour seule ambition d'en esquisser les contours flous, d'en montrer de loin les fondations. Un temple d'air, l'ombre à peine d'une sorte de sanctuaire vide où passent dans tous les sens, de haut en bas ou inversement, les derniers souffles qu'il nous reste pour réchauffer et ranimer un peu ce bloc de glaise qu'on appelle encore un homme. Je souffle déçu de toutes mes forces, depuis les mots que mes poumons me prêtent, pour que l'argile s'anime, s'agite, avant qu'il ne s'émiette, ne tombe en morceaux. Écrire, parler, insuffler ça au cœur de cette masse, l'âme solitaire où elle pourra reprendre vie, l'air salutaire où elle pourra revoir le jour.